France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à ce génial compositeur et divertisseur qui était André Pop, né voici un siècle en 1924, mort il y a 10 ans alors même que je diffusais sa dernière interview. Le musicien de piccolo et saxo, des Lavandières du Portugal, de Tom Pilibi, de Love is Blue, mais aussi de disques cultes autant qu'étranges, est à l'honneur ce matin. En compagnie de son fils Daniel Pop et du grand connaisseur qu'est Stéphane Le Rouge, nous allons plonger dans ces étonnantes mécaniques sonores où la précision se conjugue avec la fantaisie. Mécanique, j'adore parmi beaucoup d'autres ce titre d'André Pop avec ce côté justement à la fois mécanique et ce côté un peu bizarroïde dans les harmonies, dans la construction. Bonjour Daniel Pop.
Bonjour Benoît.
En plus c'est un morceau assez important hein, dans la vie et l'œuvre de votre père André Pop.
C'est un morceau important en ce sens que historiquement il l'a composé en 1951.
51 à la radio.
À la radio. Pour l'un des premiers opéras bouffes qu'on lui a commandé,
qui s'appelait... Donc c'était des opéras bouffes radiophoniques. Hein.
Radiophoniques, ouais. Qui s'appelait Les oiseaux incertains.
Et alors le morceau après a été, si j'ose dire, recyclé ou réinventé de diverses façons.
Parce que ça a été fait donc en chanson sur un texte de Boris Vian pour Juliette Gréco.
Voilà.
Et ça a été intégré dans son tout premier album instrumental, Musique en tout genre.
Voilà.
Album qui a décidé nombre de producteurs radiophoniques ou à la télé d'utiliser musique mécanique comme indicatif.
Comme indicatif. Alors ça a été notamment l'indicatif d'ailleurs d'une émission de Pierre Bellemare.
La tête et les jambes, ouais. En 1956. Mais ce qui est beaucoup plus dingue, parce que ça très peu de gens le savent, c'est que ça a été utilisé comme l'une des premières musiques des 5 dernières minutes.
Également, voilà, dont après l'autre générique deviendra d'ailleurs aussi célèbre avec Marc Langean. Daniel Pop, vous êtes d'accord, ce mélange de mécanique parfaite et de petits dérèglements subtils, c'est une des marques de fabrique de l'art d'André Pop.
Absolument, mais ça m'évoque en fait ce qu'il disait de piccolo, saxo et compagnie, ouais. C'est que ça ressemble à un mécanisme d'horlogerie.
Voilà.
Et c'est ça en fait la réponse, c'est un mécanisme d'horlogerie.
Alors, vous êtes là aujourd'hui avec nous et je suis ravi pour évoquer votre père, né il y a 100 ans, qui nous a quittés il y a 10 ans, que j'avais eu le plaisir de recevoir d'ailleurs à 2 reprises dans cette interview. Et vous êtes venu en compagnie de Stéphane Le Rouge, autre habitué de cette émission, parmi d'autres. Bonjour Stéphane.
Bonjour mon cher Benoît.
Mais on vous connaît surtout, vous Stéphane, comme grand, éminent spécialiste de la musique de cinéma, puisque vous dirigez la collection justement de toutes les bandes originales chez Universal. Mais vous êtes aussi, depuis très longtemps, un passionné au-delà du cinéma d'André Pop. Ça vous est tombé dessus comment ?
Par, je pense, des 33 tours de Tintin. qui étaient en fait des reprises d'émissions de radio des années 50 en vinyle. Je me souviens du Temple du Soleil que j'ai écouté jusqu'à l'usure avant de voir et d'écouter la musique d'André Pop pour Tintin, le mystère de la toison d'or. Et puis des années plus tard, je l'ai croisé à la SACEM, comme ça, fugacement, avec Eddy Marnay, grand parolier. Et puis un jour, on m'a donné comme mission, Pierre Achard, qui était le rédacteur en chef du journal de la SACEM, Note, d'aller interviewer André. Donc j'ai fait un grand entretien avec lui, qu'on a fait en plusieurs rendez-vous. Et j'ai un souvenir, mais très fort, de la découverte du dernier appartement d'André, que Daniel connaissait bien.
Où je suis allé, moi aussi, à Puteau.
Oui, et avec surtout...
Au 36e étage.
36e étage. Il y avait Gilbert Ami qui habitait dans la tour, compositeur contemporain. Alors je lui ai dit, mais tu le connais? Il dit, je sais qu'il est là, je ne l'ai jamais rencontré. C'est un univers à la Buffet Froid de Blier. Et on voyait, il y avait cette vue plongeante sur la SACEM. Je lui dis, ah, tu vois magnifiquement la SACEM, André. Il me dit, non, je vois mes répartitions. Et dans son bureau, il y avait cette affiche incroyable japonaise où il y avait un festival de musique française avec un invité d'honneur, André Pop et Olivier Messiaen, sauf que les Japonais avaient confondu les portraits respectifs. Et donc, être pris pour Messiaen, c'était assez ultime.
Écoutez, en tout cas, je suis d'autant plus heureux de vous recevoir que vous avez consacré un CD chez Tricatel en 2001 à l'œuvre d'André Pop, et ça a contribué peut-être soit à la remettre à la mode, soit à souligner qu'elle était toujours à la mode, en tout cas dans beaucoup d'esprits. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un coffret alors beaucoup plus important qui est publié, n'est-ce pas, Daniel Pop, avec l'intégrale de l'œuvre instrumentale d'André Pop.
Alors effectivement, c'est l'intégrale instrumentale de tous les disques d'André Pop et son orchestre de 1956 à 1976. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que la majeure partie de ces disques n'ont jamais été publiés
CD. C'est vraiment des raretés passionnantes. Et d'ailleurs, pour commencer notre petit voyage, et ben justement, je voudrais qu'on écoute un inédit qui figure dans le volume 13 de ce coffret. Et là, il s'agit d'un concert à la radio dirigé par André Pop à l'époque où il s'occupait beaucoup de musique légère. On va juste écouter le générique.
Mesdames, messieurs, dans le cadre des émissions expérimentales, la radiodiffusion télévision française vous présente un concert de musique légère, spécialement enregistré en stéréophonie par André Pop et son orchestre.
Alors Daniel Pop, voilà qui souligne les liens étroits, on va y revenir évidemment d'André Pop avec la radiodiffusion française, notamment à ses débuts. Juste un mot encore sur ce titre, c'est un des premiers enregistrements donc en stéréo, comme on nous l'a précisé.
Absolument, un certain nombre de compositeurs ont été sollicités par la radio pour sensibiliser les auditeurs à la stéréo en leur disant « vous mettez le haut-parleur à gauche, à droite, etc. etc. »
Je trouvais que c'était intéressant en tout cas de retrouver cette archive radiophonique, on va y revenir. Mais d'abord, on retrouve la voix d'André Pop qui nous parle de ses tout débuts de jeune musicien sur un certain harmonium dans la région de Vendée.
J'ai été organiste à 15 ans, enfin quand la guerre s'est déclarée, parce que l'abbé qui tenait l'orgue a été mobilisé. Et donc on savait que j'étais musicien, je faisais un peu de piano. On m'a demandé donc d'accompagner les offices. Et il a fallu que je me mette au grégorien que je connaissais pas du tout. Donc il a fallu que je me mette de la portée à 5 lignes, il a fallu le mettre à 4 lignes avec les notes carrées. Mais c'était assez amusant à faire. À cette époque-là, j'étais étant élevé dans une école religieuse, je suivais le train, quoi. Je croyais pas beaucoup au discours des abbés, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller à la chapelle et puis préparer les morceaux que j'allais jouer à la messe. Voilà, c'était ça. Donc, toutes mes récréations, j'allais là et je répétais. Et surtout, le soir, vers 5 heures, Et quand la nuit commençait à tomber, il y avait quelque chose qui se passait. Ça, je me donnais des frissons, je dirais.
Les okay. Bonnes sœurs vous écoutez alors ?
Oui, et j'ai souvent dit que les bonnes sœurs devaient avoir l'oreille moderne parce que je jouais beaucoup d'accords traditionnants. Je suis né comme ça. Je n'ai pas une grande passion pour les classiques, Mozart, Bach ou Beethoven, mais par contre, j'adorais les maîtres de l'orgue, Jean Langlais, Tournemire, Vierne, et Messiaen, évidemment. Ça a été comme ça, quoi.
Voilà le témoignage d'André Pop des années après sur ses débuts d'autodidacte dans une institution religieuse de Vendée. Il l'a souvent rappelé, Daniel Pop, c'est comme ça qu'il est devenu musicien d'instinct en cherchant sur son harmonium en quelque sorte.
Absolument, je tiens d'ailleurs à rajouter une anecdote. C'est qu'en fait, pendant son adolescence, sa mère l'a envoyé chez son demi-frère parce qu'il faisait une dépression en fait. Et c'est là où il a rencontré Monsieur Garand, l'organiste qui l'a initié à cette musique d'orgue moderne.
Ah oui.
Et c'est là où il a commencé, justement, à lire les premières partitions de Vierne, de Tournemire, de Messiaen, tous ceux qu'il a cités.
Voilà.
Donc vraiment, l'origine, c'est là où elle se situe.
D'où, en tout cas, ce sens harmonique si riche et si novateur qu'on retrouve, en tout cas par rapport au répertoire de musique légère, évidemment, dans les compositions d'André Pop. Je voudrais aussi rappeler donc que c'est la rencontre d'un camarade qui deviendra un grand monsieur de la chanson. On va l'entendre d'ailleurs dans un instant, Jean Broussol, qui va aussi être déterminant puisqu'ils vont monter tous les deux à 20 ans, à la fin de la guerre, à Paris pour se lancer dans le monde de la musique.
Hein. Absolument. Voilà. Mais ça s'est passé d'une façon d'ailleurs extrêmement rapide. Bon, Broussol se retrouve à Fontenay-le-Comte parce qu'il était originaire d'Alsace-Lorraine. Et tous les jeunes d'Alsace-Lorraine étaient réquisitionnés par l'armée allemande. C'est pour ça, en fait, qu'il a quitté l'Alsace-Lorraine et qu'il a rejoint sa sœur à Fontenay-le-Comte. Ils ont commencé, effectivement, à travailler ensemble. Et juste après la libération, là, il propose à mon père, « André, est-ce que tu monterais avec moi à Paris ?» C'était 15 jours avant la deuxième partie du Bachot, et mon père lui a dit oui, sans aucune hésitation.
On va entendre d'ailleurs le témoignage de Jean Broussol sur cette montée à Paris. Mais donc, très vite, ils vont se retrouver tous les deux dans les cabarets.
Dans les cabarets, parce que Jean Broussol voulait chanter, en fait, à l'origine.
Pop, et à ce moment-là, va notamment accompagner à Paris toutes sortes d'artistes, y compris Pierre Dac, Francis Blanche et d'autres.
Oui, c'est avec Pierre Dac, en fait, qu'il écrira ses premiers opéras bouffes.
Ses premiers petits opéras bouffes avant ceux de la radio. Et son entrée à la radio, elle arrive assez peu de temps après. On va le voir dans un instant. Mais je voudrais donc qu'on réécoute Jean Broussol, le complice d'André Pop, qui évoque avec lui ses débuts et la façon dont, plus précisément, il a appris son métier après avoir découvert les grands compositeurs d'orgue.
J'ai très vite découvert que la musique pour André n'était pas un passe-temps, mais c'était une espèce de, comment dirais-je, d'obsession perpétuelle. Qu'il s'ennuyait parce qu'il avait envie de faire de la musique, et il la faisait seul, il n'y avait aucune communion, il était seul entre son piano et quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est ce qui a beaucoup, je crois, expliqué la musique qu'il fait, en tout cas pour moi. Il avait recopié des volumes entiers à l'encre de Chine, avec une patience et une dextérité, il avait recopié toutes les œuvres de Bach. Il avait, j'en oublie encore,
non,
des volumes entiers.
Non, c'était pas les œuvres de Bach.
C'était
des œuvres modernes.
Des œuvres modernes. Mais recopiées avec une patience et avec une virtuosité exceptionnelle. Et je crois, et là je profite de ça pour le signaler, que toute la connaissance harmonique d'André, qui n'a jamais pris de leçons d'harmonie, ou presque pas, il a pris 3 leçons avec
Dandelot
et Messiaen. Eh bien, toutes les connaissances harmoniques d'André et toute sa connaissance de l'harmonie, vient, je crois, que inconsciemment, il a assimilé la musique moderne en la recopiant. En la recopiant avec minutie, donc il a eu le temps de l'apprendre.
Oui, parce que je n'ai jamais appris à l'écrire.
Connaissez-vous des lavandières comme on en voit au Portugal, surtout celles de la rivière, de la ville de Setúbal? Ça n'est vraiment pas des lavoirs où elles lavent, mais des volières. Il faut les entendre et les voir rythmer leur chant de leur battoir. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Et tap, tap, tap sur ton battoir. Tap, et tap, tu dormiras mieux ce soir. Quand un homme s'approche d'elle, surtout s'il est jeune et bien fait. Aussitôt glissent leurs bretelles de leurs épaules au teint frais. Oui, mais si c'est un va-nu-pied ou bien même quelques vieilles hidalgo, elles s'amusent à le mouiller en chantant d'une voix éraillée. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Le soir venu, les lavandières s'en vont avec leur linge blanc. Il faut voir leur silhouette fière se détacher dans le couchant. Sur la tête, leur panier posé, telles des déesses antiques. On entend doucement s'éloigner leur refrain et leur pas feutré. Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanilla. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer. Étape sur ton battoir et tape, tape, dormira mieux ce soir. Tape, tape, tape sur ton battoir, tape, tape, dormira mieux ce soir.
J'adore cette version, la plus célèbre d'ailleurs, des Lavandières du Portugal, la chanson de Jacqueline François, composée par André Pop et ici orchestrée, arrangée par Michel Legrand. On a franchi 10 années, on parlait de l'arrivée de Pop en 45 à Paris, là on est en 55 avec cette chanson qui va vraiment le faire connaître au grand public, hein, on peut dire.
Absolument.
C'est un succès mondial.
Et il est le premier d'ailleurs à témoigner que c'est la première chanson populaire qu'il a composée en fait.
Voilà, après ses débuts dans les cabarets, donc il a évidemment travailler beaucoup avec les chanteurs. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que dès cette époque, il est très présent donc, dans la maison Philips.
56, comme, je crois. Ouais,
oui, comme chef d'orchestre, compositeur et arrangeur.
Et arrangeur.
Mais pour cet immense succès, vous qui l'avez bien connu, l'un et l'autre, Stéphane Le Rouge, pour cet immense succès, les arrangements sont signés Michel Legrand et pas André Pop.
Et c'était étonnant parce que...
J'adore d'ailleurs, avec ces petits chœurs qui chantent autour de la voix de Jacqueline
mais
François.
Mais ils s'adoraient, quoi. Et par rapport aux documents étonnants que vous venez de diffuser, Benoît, je me souviens donc de ce dernier déjeuner de retrouvailles et d'adieu entre Legrand et Pop, où ils ont réévoqué cette époque d'effervescence autour de leur père professionnel qui était Jacques Canetti, qui était le même père pour l'un et pour l'autre. Et je me souviens qu'ils se sont dit la chose suivante. Ils sont arrivés au constat qu'ils avaient sûrement, dans leurs jeunes années, une connaissance innée, instinctive de la musique, de l'harmonie, du contrepoint et de l'orchestration, et qu'il fallait un révélateur photographique. Le révélateur photographique de Legrand, ça a été Boulanger et Chaland. Et du côté de Pop, ça a été justement ce qu'il évoquait. C'était notamment faire des orchestrations pour la bride sur le coup et qui finalement l'ont amené à peaufiner et à aiguiser son écriture. Et cette connaissance instinctive et intuitive de l'harmonie qui, moi, dans tout ce qu'on écoute depuis tout à l'heure, est frappante. Ouais, André Pop n'appartient à aucune orthodoxie musicale.
Alors, en tout cas, redisons-le, Michel Legrand, qui pouvait avoir la dent dure parfois, il avait gardé une vraie admiration pour complice autodidacte Pop, lui-même étant pourtant un pur produit de l'enseignement classique traditionnel.
Ah non, mais quand on a avec Legrand écrit ce bouquin à quatre mains, Michel me dit souvent, mais mon petit loup, alors à quel endroit est-ce qu'on va parler de Dédé? Parce que pour lui, c'était son Dédé. Et on a utilisé dans le livre justement ce fameux déjeuner parce que Michel riait d'un détail sur André. Il disait, j'ai jamais vu quelqu'un qui ait une écriture aussi inventive, non conventionnelle, loufoque, burlesque et qui en même temps a de l'humour. Mais au premier abord, André pouvait sembler renfrogné, etc.
Ça ressort d'ailleurs dès les plus vieilles interviews que j'ai retrouvées de la radio où André Pop est invité. Les animateurs parfois plaisantent un petit peu sur son air sinistre dans le Pop.
Lugubre.
Il était comme ça dans la vie, lugubre.
Lugubre, je ne dirais pas ça. C'est paradoxal parce qu'il était effectivement à la fois... Oui, il avait un air plutôt sévère, mais c'était une sévérité qui cachait un humour, il aimait rigoler. Donc c'est assez paradoxal. Ça n'a pas forcément été toujours très simple pour ses enfants, mais qui une fois grandis effectivement peuvent apprécier.
Quand on s'est séparés, c'est la dernière fois où Legrand et Pop étaient face à face. Michel a raccompagné André après ce déjeuner, etc. Jusqu'à l'ascenseur. André était resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire un peu mutique et sévère pendant tout le déjeuner. On le raccompagne jusqu'à l'ascenseur et là André nous a sorti sur un ton mais vraiment de condoléance.
Lugubre.
Il a dit Voilà longtemps que je ne m'étais pas autant amusé.
En tout cas, donc, voilà les deux hommes, avec quelques autres, qui, en 55, 56, réinventent chez Philips, avec Canetti, l'art de l'arrangement.
Bien sûr.
Ce qui va donner des grandes années, évidemment, de la chanson française. Donc, on l'a dit, André Pop a travaillé dans les cabarets, il s'est rapproché des chanteurs, il a travaillé avec certains en particulier dans ces années-là. On peut citer Catherine Sauvage, Juliette Gréco, qui est peut-être la plus importante à ses débuts,
Catherine Daniel Sauvage, Pop. Juliette Gréco. Et puis, la majeure partie des artistes de Canetti, il ne faut pas l'oublier. Hein.
Voilà, c'est ça.
On ne va pas tous les citer.
Y compris les premiers Brel, d'ailleurs, dont il est l'arrangeur avant l'arrivée de François Robert.
Absolument. Je trouve que les premiers arrangements qu'il a faits pour Brel sont vraiment empreints de cette audace harmonique et rythmique. C'est indéniable.
Et des gens avec lesquels ça a fonctionné et des gens avec lesquels ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il disait que, par exemple, avec Guy Béard,
oui,
ça marchait pas. Et pas trop avec Barbara. Et c'était normal parce que son écriture ne permettait pas de trop orchestrer.
Daniel Pop, parallèlement donc à cette évolution dans le monde de la chanson et à ce premier grand succès et à d'autres succès importants, donc il y a la carrière radiophonique qui a commencé presque aussitôt également. Hein,
En fait, sa carrière radiophonique, il l'a menée en parallèle
c'est ça.
De ses autres activités.
Et parce là, que... c'était comme chef d'orchestre de musique légère, compositeur pour des émissions, etc. Et c'est là qu'il a creusé un peu son métier d'orchestrateur. D'une certaine façon.
Là où il a véritablement creusé son métier, c'est quand on lui a confié l'émission vedette du samedi soir pendant 5 ans, qui s'appelait La Bride sur le coup,
voilà.
Où il avait, sur une heure d'émission, une demi-heure de musique, soit arrangée selon son goût, soit composée. Ce qui signifie d'ailleurs que, dans l'intégrale instrumentale, nombre de morceaux, mais qu'il a pu enregistrer 10 ou 15 ans plus tard, ont été composés dans ces années-là.
Voilà, c'est
et
ça.
À l'abri de sur le coup.
C'était des petits bouts, des essais pour des émissions, des séquences quasiment.
Absolument.
Qui sont devenus par la suite des vrais morceaux.
Et il y a eu aussi de nombreux indicatifs d'émissions radiophoniques ou collaborations avec Queneau, avec Soupeau, avec Jean Cosmos, avec André Frédéric.
Et dans l'esprit de tous ces gens qui étaient des modernes d'une certaine façon, il a aussi à la radio peut-être développer son goût du bricolage avec les magnétophones, avec tout ce qu'on peut faire pour le son. Il y a des interviews, on le voit comme ça, expliquer des trucs très précis.
Vous voudriez en arriver au disque Elsa Popping et la musique sidérante, que ça ne m'étonnerait pas, mon cher Benoît.
Non, mais je voudrais souligner que ça a un lien avec tout ce qui se passait à la radio à l'époque, dans les studios.
Voilà. Non, mais il faut rappeler quand même l'anecdote, c'est qu'en fait, il travaille au Club d'essai.
Ouais, le club d'essai, en l'occurrence, voilà.
Il travaille au club d'essai et il se dispute le studio du club d'essai avec Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Ouais. Donc, Elsa Popping et sa musique sidérante étaient une façon d'utiliser les techniques de la musique concrète avec les bandes magnétiques, etc., ouais. Mais à sa façon, c'est-à-dire d'une façon complètement audacieuse, rigolote. Parce que, en dehors du côté farcesque, ça vaut vraiment le coup d'écouter précisément la façon dont il orchestre cela.
Alors cet album, parmi d'autres albums cultes dans les jeunes générations, chez tous les gens qui font du sample, etc., Elsa Popping et sa musique sidérante, ça date de 1957, et il y a cette façon qui, outre les chansons à succès, comme les Lavandières de Portugal, cette façon de revisiter d'anciennes chansons...
Des standards, ouais.
D'une façon complètement loufoque, ça donne, par exemple, cette version de la chanson de Charles Trenet, La Polka du Roi.
Fini la danse, plus de cadence. Ainsi s'achève la polka du roi.
Loé! Et alors, c'est votre mère, la dame qu'on entend à la fin?
C'est Marie-Jeanne Pop, bien sûr. Bien sûr.
Voilà, dans ce merveilleux, ce délicieux arrangement si personnel de la Polka du Roi, fabriqué en studio avec tout l'art d'André Pop.
Et pardon, Benoît, et un ingénieur du son qui s'appelle Pierre Fatome, qui sera le futur mari de Christiane Legrand, et qui, franchement, pour l'époque, la modernité des systèmes donc d'enregistrer à l'envers ou à demi-vitesse, comme le fera de Roubaix également des années plus tard, c'est d'une modernité sidérante.
Il expliquait d'ailleurs dans certaines interviews que par exemple, il adorait utiliser certains instruments à une vitesse ou autre, qui faisait que ça sonnait comme un autre instrument.
Un trombone qui passe pour une trompette.
Un trombone qui devient une trompette, etc. Ce qui fait des sons très, très particuliers. Je pense aussi, d'ailleurs, quand j'écoute tout ça, à la fantaisie de certaines œuvres de Spike Jonze, ce musicien américain. Je ne sais pas s'il le connaissait.
Alors, je ne pense pas qu'il l'ait connu personnellement.
Pas personnellement, mais je veux dire musicalement.
Mais à une reprise, je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu te situes par rapport à ton ami, et je ne dirais pas concurrent, mais Gérard Calvi, qui était lui chez Vogue, il n'était pas chez Philips, et il m'a dit: j'adore Gérard, mais il a peut-être une approche plus allemande que la mienne et plus proche de celle de Spike Jonze, avec vraiment des musiques à effet, des klaxons, etc.
Voilà, également cet art extraordinaire d'André Pop qui contribuera beaucoup à sa redécouverte au fil du temps, même s'il ne faut pas le réduire à ça, n'est-ce pas, Daniel Pop? Être amuseur, ça lui plaisait, mais il n'était pas que cela, loin de là. Et on va d'ailleurs le voir maintenant. Je voudrais qu'on s'arrête encore un instant, puisque Stéphane Leroux, vous êtes un si fin connaisseur de tout ce qui a trait à l'écran, au cinéma et à la télévision, justement à la carrière d'André Pop dans ce domaine de l'image. On a parlé des génériques de radio, on a parlé des musiques instrumentales. Il a été associé à un certain nombre de films, notamment les Tintins, mais qu'est-ce que ça représente également dans sa carrière?
Alors, pour être tout à fait honnête, Daniel va peut-être vouloir me stranguler, mais à chaque fois que je lui en parlais...
Je vois, il boue déjà, là.
Il était un peu sceptique. Il disait: la grande partition que j'ai réussi, c'est Tintin, qui était donc le prolongement des albums dont on parlait tout à l'heure. C'est que la première adaptation...
Tintin et le mystère de la Toison d'or.
Hein, avec George Wilson...
En 1961.
Rôle, 61, Wilson dans le rôle du capitaine Haddock, un grand film. La partition est formidable, on l'a réédité en intégralité. Mais André, il me disait, contrairement à Michel, par exemple, j'ai pas réussi vraiment à confirmer l'essai au cinéma. Et il racontait toujours des rapports un peu dissonants avec des metteurs en scène. Nelly Kaplan, par exemple. Et il me dit, écoute, mon dernier film à ce jour, c'est un film que j'ai fait par l'amitié de Massoulier, qui s'appelait, c'est un titre malheureusement d'actualité, En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger. Et donc voilà, donc Pop et le cinéma, je pense que c'est un rendez-vous un peu raté, mais il y a un grand rendez-vous finalement un peu différé, qui est cet album dont on parlera, j'espère, tout à l'heure, qui est Mon cinéma à moi, et qui pour moi est la grande bande originale de films imaginaires
d'André Pop. En 2001, c'était donc chez Tricatel, avec Bertrand Burgala, directeur de ce fameux label, que vous avez décidé de faire de Pop un musicien en fait super branché.
Enfin, il l'était, mais il manquait, disons, un objet à ce moment-là. C'est effectivement qui était une préfiguration, une miniature de tout le travail d'Universal avec Daniel. Et c'était passionnant parce qu'on a passé des heures avec lui à tout réécouter. Et il avait un regard extrêmement autocritique sur son œuvre. Il disait au bout parfois même de 4 mesures, il disait: on arrête, c'est nul. Parce que parfois il disait qu'il avait mis vraiment des choses de lui-même, et puis parfois il avait fait des choses plus alimentaires. Là il disait: oui, là il y a 10% de pop, là il y a 40% de pop. Il donnait les pourcentages et voilà. Et c'était passionnant d'avoir son regard rétrospectif sur son œuvre.
Et parmi les titres que vous aviez retenus alors et qu'on retrouve bien évidemment dans le nouveau coffret, il y avait notamment ce petit morceau que vous aimez beaucoup, je crois. Dites-nous en quelques mots pourquoi, qui s'appelle « Chasseur, sachez danser ».
Voilà une idée complètement à la fois aberrante mais géniale et qui techniquement fonctionne. C'est d'avoir un rythme à la mode de danse de l'époque yéyé, le huli-guli, mais orchestré avec 4 corps de chasse.
Oui, effectivement. Voilà, et ça donne « Chasseur, sachez danser ».
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Et voilà donc le Uli Gulli, version chasse à cours dans ce titre d'André Pop, intitulé Chasseur, sachez danser, qu'on retrouve dans ce coffret André Pop, l'intégrale instrumentale. Et alors ça vient d'ailleurs, Daniel Pop, d'un 45 tours. Hein,
ça vient d'un 45
encore,
tours.
Encore, donc avec quantité d'inédits.
Absolument, voilà. Avec un titre culte là, qui est plus dans l'esprit de jazz de Pop, qui est l'homme invisible.
Voilà, l'homme invisible. Et ces titres d'ailleurs ont beau être des instrumentaux, ils sont co-signés par un proche d'André Pop qui était Pierre Court.
Pierre Court, oui, qui a vu l'idée un peu de... Parce qu'il y a quand même une petite dramaturgie, toujours une chute à chaque titre instrumental.
Ah voilà, donc il y avait un auteur à côté du compositeur. Voilà,
voilà. Pour l'homme invisible, il participe.
Il y a un texte, oui.
Voilà, qui était donc un des collaborateurs principaux de Pop. On peut citer aussi, et alors pour les vraies chansons, Eddy Marnay, avec qui il en a écrit beaucoup.
Eddy Marnay, Massoulier, Broussol, bien sûr, Claude Lemel, Delanoë, enfin, il a travaillé avec tout le monde.
Encore un mot, Stéphane Leroux, ces couleurs si étranges. On a cité Spike Jones, on a cité Gérard Calvi, mais il y a aussi un immense musicien de cinéma, le plus grand peut-être de cette même époque, qui aimait bien aussi aller chercher les couleurs les plus improbables. C'était Ennio Morricone. Est-ce qu'il y a eu un lien ou une curiosité entre ces deux musiciens d'exception?
Bah, j'ai assisté à une rencontre fugace, mais intense, et qui avait beaucoup marqué André avec Morricone. C'était dans un festival dont je faisais la programmation musicale à Auxerre, qui a duré 10 ans. Et en 2006, concert d'Ennio Morricone et présentation le même jour, en après-midi, par André Pop, du film d'animation en 3D réalisé d'après Piccolo, Saxo et compagnie. Et donc, André était là devant une salle d'enfants en surchauffe. Fred Palem est également présent. Et le soir, concert de Morricone. Et après le concert, donc rapidement, je dis Ennio, voici André Pop. Et les deux face à face, je me suis dit, mais il y a quelque chose d'évident, parce que André aurait rêvé d'être un peu Messiaen, Dutilleux, Stravinsky, qui étaient ses grandes références. Ouais. Morricone aurait rêvé d'être Berlioz, Dalla Piccola ou Luigi Nono. Et finalement, je me suis dit, mais ces deux créateurs, en travaillant dans la contrainte, c'est-à-dire la variété ou le cinéma, finalement, ont dû négocier entre leurs ambitions de symphoniste et les contingences. Et c'est en cela qu'ils se sont révélés géniaux, je trouve. Parce que c'est ça qui fait la grandeur de Pop, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve de Messiaen, mais qui en même temps doit écrire, mettons, une chanson pour Juliette Gréco.
Donc encore un aspect d'André Pop. Alors je voudrais qu'on revienne aussi à quelque chose qui remonte probablement au temps des cabarets, parce que André Pop s'était passionné pour les expérimentations musicales, il aimait Messiaen, il allait au studio d'essai, mais c'était aussi un fou de jazz, Daniel Pop.
Non, je ne dirais pas que c'était un fou de jazz. Il appréciait effectivement certains artistes de jazz comme Stan Kenton.
Oui.
Stan Kenton, c'était pour lui vraiment une grande référence. Mais comme il l'a dit d'ailleurs dans plusieurs interviews de l'époque, lui dit « Moi, je ne fais pas du jazz. J'utilise en fait une formation de big band de jazz que je mélange à des musiciens classiques. Et ensuite, je fais des musiques effectivement à ma façon. Mais sur certaines de ces musiques... ça s'apparente carrément au jazz.
Oui, il y a des couleurs vraiment dans certains morceaux du coffret qui sont tout
mais,
à fait
mais
jazz.
À tel point d'ailleurs qu'un concert est prévu à Radio France le 8 mars 2025 consacré à l'esprit jazz de Pop avec Fred Palem et le Sacre du Tympan.
Voilà, l'esprit jazz de Pop.
On a le temps, on a le temps.
D'ailleurs, je m'arrête à cette phrase parce que jazz, pop, pop musique, redisons-le, c'est son vrai nom, André Pop, c'est vrai nom de votre famille, Daniel Pop.
C'est un nom d'origine allemande. Les Pop viennent de Hambourg au début du XVIIIe siècle. Mais si on remonte un petit peu plus loin, c'est un nom qui vient d'Europe centrale.
Mais alors comment est-ce qu'ils se sont retrouvés en pleine Vendée
Parce qu'il y avait des liens particuliers entre la ville de Hambourg et la ville de Bordeaux. Ils sont venus notamment assécher les marais de la région.
Ah voilà, et ainsi les Pop sont-ils devenus français et catholiques et musiciens pour ce qui concerne donc André Pop. Alors on va écouter sans plus attendre un autre titre. Alors on fait encore un saut dans le temps puisque là on est en 1967, justement qui illustre bien je pense cette couleur jazzy, c'est Electric Band.
Ah oui.
Encore un petit mot sur ce morceau.
Ah bah je trouve que moi j'adore ce titre parce que l'esprit de jazz de Pop, s'il devait se résumer à un seul titre, c'est vraiment Electric Band.
Musique. Electric Band, c'était André Pop en 1967. J'ai envie de dire André Pop et ses musiciens, parce que Daniel Pop, je me pose la question en écoutant cela depuis l'époque où il était chez Philips, arrangeur et chef d'orchestre. Est-ce qu'il s'était formé une espèce de bande de musiciens qu'il retrouvait au fil des enregistrements,
votre père ? Je pense que les musiciens qu'il retrouvait au fil des enregistrements, c'était les mêmes musiciens qui jouaient avec Le Grand, c'était des musiciens qui jouaient à l'opéra.
Voilà, tous ces requins de studio, mais comme c'était, on dit.
Oui, mais enfin, dans le sens le plus noble du terme. Je veux dire, c'était les frères Rasco, c'est... bon, voilà, ça fait tous les grands musiciens de l'époque. Quoi.
Une autre question que je me pose en parlant avec vous et en voyant ce coffret qui ne représente qu'une part de l'œuvre d'André Pop, puisqu'il y a toute la partie chantée aussi, il a quand même laissé énormément de morceaux. Il travaillait tout le temps. Il travaillait comment? Il travaillait à quelle heure? Comment ça se passait? Il écrivait un morceau par jour pour se mettre en forme.
Mais sa vie était vouée à la musique.
Ouais.
Enfin, il a dit souvent dans des interviews, il y a deux choses qui comptent dans ma vie, c'est la musique et l'amour. Mais la musique, je pense, la musique était largement prioritaire. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on avait interdiction de te déranger.
Il travaillait donc à la maison, après l'époque de la radio, principalement dans son studio.
Il travaillait dans son salon avec son piano. Et moi, ça, je m'en souviens un petit peu moins, mais j'étais dans le berceau en dessous du piano.
Ah oui, d'accord.
Là, j'avais l'autorisation, effectivement, d'être en dessous le piano. Quelques années plus tard, oulala, mais c'est... Ma mère était la gardienne de la musique d'André Pop.
Voilà, tout tournait vraiment autour du travail, en tout cas.
Ah, mais complètement. Non, mais il avait un emploi du temps hallucinant. Parce qu'à l'époque, quand il travaillait pour la radio, avec La Bride sur le cou, mais avec bien d'autres émissions... En parallèle, il pouvait effectivement travailler avec Jacques Canetti dans le cadre des Trois Baudets. Enfin, c'est hallucinant tout ce qu'il a pu faire.
Alors, effectivement, on voit cette activité inlassable avec des tubes immenses. Donc, on a entendu tout à l'heure Les Lavandières du Portugal, dont on ne mesure pas forcément aujourd'hui ce que ça représentait dans la vie de la chanson de l'époque, parce que Jacqueline François est un peu oubliée. Mais alors, il y a deux autres grands tubes qui vont suivre en 1960 et en 1968. C'est d'une part Tom Pilibi, qui gagne l'Eurovision avec Jacqueline Boyer. Oui. Et puis Love Is Blue, qui va être un succès mondial, passant également par l'Eurovision, mais pour le Luxembourg d'ailleurs cette fois.
Absolument.
Et donc voilà, deux morceaux qui évidemment ont pu changer quand même aussi un petit peu le cours de sa vie, ne serait-ce que par leur succès.
Oui, ça se limite pas à ces morceaux d'ailleurs, parce que enfin il y a d'autres morceaux qui ont eu des belles carrières à l'étranger. Tom Pilibi a surtout une carrière en Europe. Alors c'était un énorme succès en Europe. Love Is Blue, ça dépasse tout.
C'est planétaire.
Ah non, mais c'est hallucinant.
Et alors,
L'un des plus grands succès français de tous les temps aux États-Unis, quoi.
Alors j'ai retrouvé aussi cette petite interview, c'est amusant, où il nous raconte comment ça se passait, la sélection des titres pour l'Eurovision, à cette époque où la France gagnait très souvent, mais oui, chers auditeurs, même c'est d'ailleurs le pays qui gagnait le plus souvent, la langue française était toujours à l'honneur à l'Eurovision, elle le sera encore avec Tom Pilibi, qui a séduit le public européen, et oui, vous allez l'entendre, et pourtant, ben voilà, ça a marché comme ça. C'est André Pop qui nous raconte donc un petit peu ses souvenirs.
J'ai fait une chanson pour l'Eurovision, parce qu'à l'époque, on demandait des chansons donc à des compositeurs, et on envoyait un piano manuscrit, une partition avec les paroles. Et alors, il y avait le mari de Jacqueline François, qui s'appelait Henri Decker, qui chantait. Il y avait Pierre Petit qui se mettait au piano, qui était d'ailleurs dans le jury. Il y avait cinq personnes qui écoutaient donc les chansons qui avaient été envoyées, et ils sélectionnaient la chanson. Et donc, ma chanson a été sélectionnée, c'est Tom Pilibi, qui était chanté par Jacqueline Boyer, qui a eu le grand prix.
Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi deux grands vaisseaux qui vont au bout du monde. Chercher des ors et des coraux et les plus beaux joyaux. Il a la chance, Tom Pilibi. Et moi je pense que je suis son ami. Il est si riche que je l'envie. Il est si riche, sa
Et voilà, Love is Blue, évidemment, immense tube, vous le rappeliez, Daniel Pop, de votre père André Pop, ça c'était en 1968,
hein. Oui.
Et c'était une chanson donc, qui a été vraiment popularisée par cette version de l'orchestre de Paul Mauriat.
Absolument.
Dire, hein. Voilà. Combien de reprises après, vous l'avez dit ?
300, plus de 300.
Plus de 300.
323, je crois.
Ah, ça, c'est la précision de Stéphane Lerouge.
C'est possible.
Il sait tout ça par cœur.
Non, mais ce qui est formidable, c'est que ça coiffe tous les genres musicaux.
Oui.
Mais vraiment, tous les genres musicaux. Et moi, je ne cesse de découvrir de nouvelles versions qui sont, dont beaucoup sont passionnantes, franchement.
On a parlé évidemment de toutes ces musiques instrumentales, d'abord parce qu'on parle de la sortie de ce coffret de l'intégrale instrumentale d'André Pop, mais il faut souligner aussi donc qu'au fil du temps, après ses premières années en compagnie de Gréco, de Catherine Sauvage, eh bien, il a continué à travailler avec des chanteurs et il y a même eu des relations, on peut dire, fortes et durables avec certains artistes, je pense notamment à Marie Laforêt.
Ah bah oui, Marie Laforêt, il lui a composé 18
comment
chansons.
Comment ça s'était fait? Ils sont connus comme ça dans le travail.
Ah hein. non, pas non du tout. Mon père avait pris la décision de ne plus écrire d'arrangements pour d'autres personnes. Et c'est Roger Marouani qui l'a convaincu de rencontrer Marie Laforêt. Et c'est cette rencontre et le fait de constater à quel point elle chantait... elle avait des facilités extraordinaires.
Elle n'était pas encore très connue. Hein. Ouais. Elle n'était pas encore une star, hein, loin de là.
Ah, mais très, très,
ça, c'est
très
début,
loin de
vraiment.
Elle faisait ses tout petits débuts au
oui.
cinéma.
Oui.
Et mon père était complètement séduit. Quoi. Il lui a écrit... tous ces arrangements, enfin la majeure partie de ces arrangements, de 1963 à 1968, ça débordait un petit peu sur 69.
Il y avait toujours un titre à lui par 45 tours.
Mais ça, c'était le deal de départ.
Ouais.
Ça, c'était le deal avec Marouani. Mon père avait dit, écoute, moi, a priori, je ne fais plus d'arrangements pour les autres, mais j'accepte effectivement de faire ceux de Marie si elle me chante une chanson par 45 tours. Ouais.
Et mais il n'était pas seulement l'arrangeur, il était aussi le compositeur de quelques-uns de ses plus grands tubes.
18 chansons.
Voilà.
Il a composé 18 chansons pour elle.
Alors, notamment Manchester et Liverpool.
Bah non, parmi ses plus grands succès, Manchester et Liverpool, Mon amour, mon ami, voilà. Le lit de Lola, etc. etc.
Et quand on demandait à André d'ailleurs de représenter sa collaboration avec Marie Laforêt avec un titre, il choisissait toujours Manchester et Liverpool pour pouvoir raconter l'histoire de la rythmique avec les boules de pétanque.
Oui.
Ah, voilà. Alors moi, j'ai choisi l'autre, justement. L'autre très grand succès de cette époque, l'année d'après, c'est Mon amour, mon ami. C'est peut-être le plus repris aujourd'hui.
Ah, mais c'est extraordinaire. J'ai calculé 15 reprises datant d'il y a moins de 10 ans dans un esprit pop, électropop, etc. C'est extraordinaire.
C'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait. Ton nom. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour, et moi qui croyais pouvoir t'aimer. Parfois, pas d'autre que toi, un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami. Je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais plus pourquoi.
Mon Même amour, mon ami, c'est Marie Laforêt en 1967, chanson composée et arrangée donc par André Pop.
Absolument.
Comme beaucoup de titres qu'on peut retrouver. Alors là, pour le coup, dans le précédent coffret que vous aviez édité il y a quelques années, cher Daniel Pop, qui s'appelait La musique même, 5 CD qui représentent vraiment toutes les facettes.
6 CD qui coiffent effectivement vraiment toutes les facettes de son œuvre musicale en tant que compositeur, arrangeur et chef d'orchestre.
Voilà, donc c'est une espèce de panorama vaste. Et là, par contre, on approfondit avec le nouveau coffret.
Absolument.
Uniquement l'instrumental en 13 CD. Alors, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, surtout pour les amateurs, les jeunes apprentis de musique classique qui sont tous passés par l'écoute de piccolo et saxo, qui arrive très vite d'ailleurs dans la vie et l'œuvre de d'André Pop. Hein.
C'est ça arrive en 1956. Effectivement, c'est une commande de Jacques Canetti. Oui.
Voilà, encore le grand Jacques Canetti et encore co-conçu avec son ami Jean Broussol.
Absolument. Hein,
voilà. C'est ainsi donc que vont voir le jour les 5 épisodes, on peut dire, de
cinq
piccolo
épisodes,
et saxo,
absolument.
Qui sont repris intégralement.
Qui
dans
sont
ce
repris intégralement. Dans l'intégrale instrumentale, absolument, avec la symphonie écologique.
Mais il faut dire aussi que c'est une œuvre qui a été adaptée de toutes sortes de façons, en spectacle, à la télévision, classique également.
Ça a été adapté en long métrage, bien sûr.
Oui.
Ça a été adapté pour la télévision, et ça c'est très 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 récent, c'est l'orchestre de l'Opéra de Rouen, avec comme narrateur François Morel, dirigé par Chloé Dufresne, qui ont fait, c'est pas une captation de concert, c'est vraiment un projet où on voit François Morel ouvrir un grand livre et les musiciens apparaissent. Ouais. C'est formidable. C'est passé toute l'année dernière sur France 4 ou France 5. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la symphonie écologique va être créée en concert.
Voilà.
À l'Opéra de Dijon.
Et de Mâcon.
Et de Mâcon, le 15 et le 14 décembre.
Voilà, c'est le dernier volet donc, qui date de 1976.
Absolument. Hein,
de piccolo et saxo. On va en écouter tout de suite d'ailleurs un joli extrait. Une question quand même, juste Stéphane Rolle, vous faites partie des enfants de piccolo et saxo
du premier surtout. Et surtout, j'ai eu l'occasion tellement de voir des compositeurs plus jeunes, comme Jean-Claude Petit par exemple, dont la vocation est née de piccolo et saxo.
Grand-père Basson referma son livre dans un silence effrayant. Ce qu'il venait de lire avait semé la consternation parmi les instruments du grand orchestre réunis autour de lui. Eh oui, mes amis, voilà comment l'homme finira par détruire ce que la Providence lui avait offert. Piccolo et saxo, blottis l'un contre l'autre, n'étaient pas d'émotion. Grand-père Basson, croyez-vous que ce soit la fin du monde ? Mademoiselle Harpe essuya de grosses larmes d'impuissance. Peut-être bien, mais que pouvons-nous y faire ? Mais tout, répliqua Piccolo, et sans perdre un instant. Vous, la famille des cordes, vous serez l'air pur, l'atmosphère transparente, le bon vent chargé d'oxygène. Partez vite ! Volez au secours de nos amis les oiseaux ! Alors, les violons jouèrent comme le bleu de l'azur, et l'on vit surgir de tous les coins du ciel toute la multitude des merles, des pinsons, des mésanges et des rossignols, des pélicans et des cormorans, des aigrettes et des flamands.
«
merveilleuse musique, extrait de la symphonie écologique, dernier volet donc de Piccolo et Saxo, d'André Pop et Jean Broussel, Daniel Pop, que vous avez donc fait figurer aussi dans ce coffret intégral instrumental, même s'il y a de la voix parlée, n'est-ce pas ? Ce sera à découvrir également donc à Dijon le 14 décembre et à Mâcon le 15 décembre. Il faut malheureusement nous quitter, mais on va revenir justement à cet album dont vous parliez tout à l'heure,
oui.
Mon cinéma à moi de 1974, de Stéphane Lerouge, pour conclure. Et un mot d'abord, parce que vous aviez lancé donc en 2001 ce premier coffret sur André Pop, revisité d'une certaine façon par de nouvelles générations. Il en avait été heureux, il avait l'impression que son œuvre entrait finalement peut-être dans un temps de redécouverte et qu'elle allait continuer comme ça à surprendre tous les musiciens à venir.
Oui, enfin, il avait été d'abord heureux, non pas de la promotion, mais le fait de rencontrer une nouvelle génération de journalistes, parce qu'à la fin de sa vie, il vivait dans un monde où malheureusement il s'était coupé des relations professionnelles nées dans les années 50 ou 60. Et brusquement, le fait d'avoir Libération, les Arocs qui viennent
c'est
à
ça,
sa rencontre,
c'est ce que je veux dire.
il était très touché et ça avait été un très beau moment. Et une fois encore, j'avais été frappé par son acuité et vraiment son absence de complaisance par rapport à lui-même et par rapport à son œuvre.
Et vous avez fait figurer donc dans cet album déjà des titres extraits de Mon cinéma à moi. Album que vous adorez, vous également, Daniel Pop.
Ah bah, ça fait partie de l'un de ses albums cultes.
Oui.
Fred Palem, c'est son album préféré, il n'y a aucun souci.
Ouais, parce qu'il y a dans cet album, pardon Benoît...
Près de 20 ans après les albums cultes dont on parlait tout à l'heure, Elsa Poppin, etc.
Hein. Il y a surtout quelque chose qui synthétise à la fois son amour, bien sûr, de la musique moderne, des femmes et du cinéma. Oui. Et de voir André qui, finalement, sur le modèle de Charles Kalkin et de sa Seven Stars Symphony, qui l'a... rend hommage à 12 comédiennes en leur dédiant à chacune une sorte de morceau portrait. Et je trouve ça magique. Et en plus enregistré à Milan avec des musiciens italiens, ce qui était
une expérience. Et en reprenant souvent des morceaux qu'il avait composés pour la radio dans l'émission La Brise sur le Cou, avec le titre dédié à tel ou tel...
Toujours cette mine inépuisable de La Bride sur le Cou, sa première et grande émission radiophonique. Eh bien, on va se quitter avec justement Bloody Serenade. Alors, il est dédié à qui, celui-ci ?
Faye Dunaway.
Faye Dunaway. L'hommage d'André Pop à Faye Dunaway dans l'album Mon cinéma à moi. Merci Stéphane Lerouge pour votre engagement passionné.
De rien, Benoît. André.
Puis vous reviendrez, Daniel Pop, parce qu'on a encore plein de choses à se raconter sur les reprises, les samples, la nouvelle vie des morceaux de votre père André.
Avec grand
Pop.
Plaisir. Là, vraiment, je vous en remercie parce que, en fait, depuis maintenant 4 ans, je fais vraiment un travail qui ressemble à la bibliothèque musicale d'André Pop sur mon profil Facebook.
Voilà.
Et tous les amis d'André Pop se retrouvent aujourd'hui sur le profil Facebook de Daniel Pop.
Voilà, alors à visiter sans attendre. Merci à tous les deux.
Merci Benoît.
Et à bientôt. Bloody Serenade, extrait de Mon cinéma à moi, un des albums repris dans le coffret André Pop, l'intégrale instrumentale en 13 CD qui vient de paraître chez Universal. C'est la fin d'Étonnez-moi Benoît, à retrouver sur le site francemusique.fr et sur l'appli Radio France, une émission préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Philippe Thibault, réalisation David Travailleur. Et samedi prochain, eh bien, je serai très heureux d'accueillir la chanteuse Stone. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.